Sixième édition du festival Particules, Myriam Crédy, vous en êtes la maître d'œuvre. Ce festival a une thématique, pas forcément fédératrice de toutes les démarches, mais en tout cas une forme d'interrogation, ce sont les repères.
Oui, ce qui m'intéressait à travers ces pièces que j'ai choisi de présenter ensemble, c'est le questionnement autour du repère. Comment est-ce que nous arrivons à nous situer dans cette société physiquement, à travers nos sens, dans la culture dans laquelle on vit, donc les rapports sociaux, et puis des rapports simplement physiques, c'est-à-dire grâce aux cartes d'identité. Il y a des questionnements très concrets.
How do you like my landscape de Mana De Po et Bernard Van Eghem des Belges? Donc c'est une interrogation à la fois sur l'intime, le paysage, le corps mis en boîte. Qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans cette manière de déconstruire, reconstruire le corps, contextualiser, le déterritorialiser d'une certaine manière, qui traverse How Do You Like My Landscape?
Ce qui m'intéressait, c'était l'approche assez ironique, assez humoristique, cet écho avec les textes de la Bible. On est dans une culture occidentale basée sur la Bible, mais avec laquelle on a pris beaucoup de distance, et je trouve que ce spectacle arrive bien à remettre en contexte le corps dans notre société et son origine justement biblique ou ses rapports aux textes bibliques. Donc il y a des textes très sérieux que tout le monde connaît, les textes de la Genèse ou de l'Apocalypse, et puis il y a encore mise en boîte justement de manière ironique qui découvre beaucoup, qui cache aussi beaucoup.
Alors dévoiler et révéler, bon ben c'est le thème de l'Apocalypse notamment, mais c'est aussi celui de la Genèse. Il y a un jeu avec peut-être un jeu sur les échelles, en tout cas avec des figurines miniatures.
Oui, bah ça recoupe ce questionnement sur les repères, c'est-à-dire comment nous situons-nous. Et là, il y a ces deux échelles, c'est-à-dire qu'on revoit toute l'histoire de l'humanité, enfin 4000 ans d'histoire environ en une heure, et puis une histoire de l'humanité justement gigantesque, réduite à l'état de miniature et de maquette. Donc il y a vraiment cette histoire, comment est-ce qu'on fait tenir tout ce qui nous sert de repère dans une boîte?
L'homme d'hier, Thiago Rodriguez, Rabi Mroué, Tony Chakar, Portugal, Liban. Les repères ici sont aussi temporels, c'est-à-dire que c'est une visitation d'une ville, Beyrouth, depuis 1920 jusqu'à 2007, avec tout ce que peut effacer un séjour de l'un à l'autre, tout ce que ça peut ressusciter également. Quels ont été un petit peu les points d'accroche justement avec ce besoin alors là de traverser, de pérégrination qui se fait à la fois dans l'espace et dans un feuilleté du temps?
Ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est le point de départ très concret d'une rencontre entre un artiste portugais, Thiago Rodriguez, et deux artistes libanais, Rabi Mroué et Tony Chakar, qui est architecte. Rabi Mroué, lui, est metteur en scène et comédien. Donc cette première rencontre qui va déboucher sur un spectacle dont le point de départ est très concret, c'est-à-dire le personnage, Thiago Rodriguez, va visiter Beyrouth. Et puis ça, c'est un point de départ réel. Thiago Rodriguez est effectivement parti visiter Beyrouth. Et ensuite, le spectacle part dans une évocation qui est à la fois concrète, historique et ensuite plus poétique. Le personnage va en fait visiter cette ville 5 fois à une vingtaine d'années d'intervalle. Il va donc rencontrer une ville qui a beaucoup changé puisqu'elle a été détruite par des bombardements, elle a été ensuite reconstruite. Donc il se perd physiquement, c'est effectivement quelque chose de réel. Quand on va à Beyrouth, si on y allait une fois en 1920 et qu'on y retourne aujourd'hui, je pense qu'on se perd. Et puis ensuite, ça pose des questions sur notre façon de nous repérer dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace.
Le philosophe allemand Walter Benjamin disait que l'histoire, c'était un petit peu comme la terre qu'on retournait, c'est-à-dire c'était toujours les mêmes questions qu'on reposait, mais en même temps, il y avait cet aspect champ de fouilles archéologique qu'on retrouve ici, c'est-à-dire que sous une ville existent, comme dans un palimpseste, d'autres villes, d'autres plans. Est-ce que cet aspect, disons, cartographie surimpressionné, comment vous l'avez ressenti?
Oui, c'est exactement ça l'objet de ce spectacle, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose de très concret en superposant des cartes, des plans de ville. Et ensuite, ce qui, moi, m'a intéressé, c'est le fait que c'est un point de départ. C'est vraiment, la carte n'est pas le repère ultime, c'est plutôt de là d'où on peut partir pour découvrir une histoire, une ville, et se découvrir soi-même, puisque le Thiago Rodriguez est ce même personnage qui va se re-rencontrer lui-même au cours du temps.
inorganique de Marcela Lévy, brésilienne. Donc Marcela Lévy, interprète et chorégraphe dans ce qui est appelé performance, des perles d'un collier, la rencontre entre des archétypes symboliques, un corps réel, des choses qu'on a quand même l'habitude de croiser, notamment comme type d'interrogation au théâtre de l'usine, par contamination, par débordement, par surimpression. Comment se crée justement cet univers qui prend des symboles à la fois d'une certaine féminitude et assez phallique, hein, la corne de taureau notamment?
Oui, c'est une performance que j'ai vue à Madrid pendant le festival Los Impresentables. Il y a donc un questionnement sur la féminité, sur ce corps féminin qui est nu et sur ce qui les valeurs féminines ou l'ancrage de la féminité dans la société. Donc effectivement, il y a le rapport féminin-masculin à travers cette tête de taureau empaillée qu'elle porte et qu'elle transporte. Et puis il y a des questionnements sur la femme-mère qui perd son enfant, sur la femme désirée par l'homme et qui se fait attraper au lasso. Et cette forme très légère où il y a une performeuse nue et trois ou quatre objets permet en fait d'évoquer cette place de la femme dans la société sans être trop didactique et puis imposer des réponses ou un point de vue. Donc il y a vraiment un questionnement qui est vraiment ouvert. Et c'est ce qui me paraît intéressant dans cette forme-là.
Alors, une performance peut-être plus exigeante dans sa réception, qui est « Handle with great care ». D'ailleurs, peut-être qu'il y a une ironie par rapport justement à l'objet lui-même qui est présenté, d'Alisha Asin, donc une artiste serbe. Alors c'est vrai que la Serbie, au niveau performance, ça a été un peu écrasé par la personnalité de Marina Abramovic. Il y a beaucoup d'autres performeuses d'autres générations d'ailleurs, comme c'est le cas de d'Alisha Asin. Qu'en est-il justement par rapport à cette phénoménologie de la perception, c'est-à-dire qu'on essaye d'une certaine manière de nous montrer comment reconstituer peut-être une image ou des fragments de perception concrète ou abstraite. Donc comment se présente concrètement le dispositif Handle with Great Care?
Ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, c'est que ça ne joue pas sur la technologie qui permet justement de des fois de tromper le spectateur ou de jouer avec ses perceptions. Ça joue vraiment avec les défauts et les qualités de l'œil humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste imprimé sur la rétine quand la luminosité est minimale. Comment est-ce que le mouvement perdure, parce que cette pièce-là, l'intérêt c'est vraiment que c'est pas vraiment une performance, c'est vraiment une pièce chorégraphiée, et ce qui est important c'est que le mouvement se développe. Il y a vraiment des phrases qui se déroulent dans le temps, et ce qui est intéressant c'est de voir justement comment elle s'imprime sur la rétine dans la durée et dans le changement, dans l'évolution du mouvement.
Pour revenir en fin de compte à inorganique, puisqu'il y avait aussi une dimension dont vous m'aviez parlé, c'est-à-dire c'est le rapport entre le masculin et le féminin et la très grande violence qui peut sous-tendre, au-delà même du symbolique et au-delà de la violence conjugale et au sein du couple, les rapports hommes-femmes. Qu'en est-il, puisque quand on découvre simplement cette photo, c'est vrai qu'on a peut-être des visions un peu almodovariennes de la chose. En même temps, je crois qu'il y a un aspect peut-être beaucoup plus cru, moins hyperbolique qui est abordé. Comment vous l'avez ressenti justement sur cette dualité féminin-masculin?
Ce qui m'a paru intéressant, c'est que c'est pas surjoué ou surmis en scène. C'est-à-dire chez Almodovar, il y a ces rapports féminin-masculin qui sont toujours en fait très mis en scène, où donc tout devient finalement assez humoristique, ou tout devient peut-être acceptable d'une certaine manière, ou en tout cas tout est digeste, puisque il y a un côté très très coloré, très agréable. Là, il y a cette question, par exemple, justement cet homme qui attrape cette femme au lasso, qui est évoqué dans l'histoire, et on se dit ça fait écho à les rapports qui peuvent être entre les hommes et les femmes, quand les hommes viennent par exemple essayer de séduire une femme en se disant c'est un cadeau que je lui fais, elle devrait se sentir flattée. C'est justement sur cette question de la femme devrait quelque chose, devrait se sentir flattée, devrait se sentir dans une certaine position. Et en fait, je crois qu'on nous oblige à cette posture-là et que finalement elle doit être mise en question, qu'il n'y a pas de raison de penser que cette approche-là est si flatteuse.
Quand on découvre le travail de Marisa Godoy pour Radical Connector, il y a cette forme de réseautage. On pense peut-être à ce que faisait un temps Claudia Triozzi, c'est-à-dire cette manière peut-être de mettre en relation probable, improbable, des connexions entre des événements, entre un tissu complexe qui est lié à chaque élément. Alors c'est vrai que quand on découvre cette photo, par exemple, on a ces filins qui forment une espèce de maillage de repérage. Ça peut être peut-être soit des trajectoires balistiques sur une scène de crime, ou alors cette manière justement de mettre en relation les éléments les uns avec les autres, interroger aussi également l'identité personnelle collective. Qu'est-ce qui peut séduire, qu'est-ce qui peut harponner ou irriter dans cette proposition?
Je pense que par rapport à cette volonté justement de tisser un réseau, c'est illustré par cette photo, alors que sur scène c'est beaucoup plus subtil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien physique. On sent que le lien est très fort entre la danseuse qui fait un solo sur scène et le musicien qui est lui aussi présent sur scène. Et je pense que ce qui est accrocheur, c'est de voir justement ce musicien et cette danseuse se répondre, travailler ensemble, en partie en improvisation. Je pense que c'est ça qui tisse les plus fortes connexions. Ensuite, évidemment, vu qu'il y a ce rapport danse-public, j'espère que les connexions se font aussi avec le public.
Beaucoup de démarches ont en lien tout de même avec le Brésil, que ça soit au niveau biographique ou des parcours personnels, et on terminera par Gilles Pasteur, conversation avec l'Aléa. Gilles Pasteur qui a notamment travaillé en rapport avec les religions africaines traditionnelles, le catholicisme au Brésil, et évidemment cette présence indienne qu'il y a en dessous de la présence coloniale. Le principe du cabinet de curiosité qui présente dans ce film Conversation avec l'Aléa, qu'en dire?
Que justement cette curiosité là elle est bien elle est de la région elle est de la France voisine et des montagnes, et donc ça permet de mettre en rapport l'exotisme à la... qu'on recherche souvent, et les figures qui peuvent être tout aussi surprenantes et pleines de surprises qu'on peut avoir ici tout près. Donc je pense que ce personnage de grand-mère qui vend des tomes vaudoises, qui est vraiment très proche de nous, et révèle de nombreuses surprises.
Et justement, cette rencontre, comment se passe-t-elle? Parce qu'il y a, je crois, une scène d'achat, justement, qui est parfois assez burlesque, peut-être, dans sa forme.
Oui, quelque chose qui est particulier, c'est que le lien entre Gilles Pasteur, le metteur en scène, et l'Aléa, c'est un lien biographique, c'est-à-dire qu'ils se connaissent, et donc il n'a pas à créer ce personnage. Ça va être plutôt dans la manière de comment est-ce qu'il rentre en relation avec, et comment il nous le transmet à nous, parce que lui a l'habitude de communiquer avec elle, bien qu'elle n'entende pas. La question va être comment je transmets ça au public. Et du coup, il a décidé de filmer sans vraiment l'avertir. Donc, il y a cette histoire un peu de caméra cachée.